Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans le tumulte du 19e siècle pour dépeindre le portrait d'une femme dont le nom fait écho aujourd'hui encore à un symbole de liberté. Le 22 janvier 1905, un cortège funèbre traverse tout Paris en soulevant les foules, celui de Louise Michel. Institutrice, poétesse, révolutionnaire, militante et féministe engagée, mais qui est réellement celle que l'on surnommait la Vierge Rouge de Montmartre? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Premièrement, Louise Michel naît en 1830 en Haute-Marne. Fille naturelle d'une servante, elle grandit dans un château élevé par ceux qu'elle nomme ses grands-parents, qui s'appliquèrent à lui conférer une éducation libérale, humaniste et surtout très riche. Elle développe donc de manière précoce une profonde empathie pour la souffrance, accroît son esprit critique et ses aspirations de justice. Certains lui octroieront le nom de la bonne Louise, car elle décida très vite de prêter vœu de pauvreté pour soutenir les plus démunis et réclame de la nourriture pour les enfants. Elle décide de promouvoir sa passion pour l'apprentissage et devient institutrice. Mais une institutrice semblable à nulle autre. Elle refuse fermement de prêter serment à l'empereur Napoléon III. Pour elle, l'enseignement est une arme de libération et rendre le futur meilleur passe par les enfants. Sa quête d'une instruction accessible pour tous se traduit par l'aménagement d'une école gratuite dans l'église Saint-Pierre dans l'année 1871. D'après ses dires, la tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Le tournant de sa vie a lieu en 1871. Paris est assiégé, le peuple gronde. Louise rejoint les rangs de la Commune de Paris. Elle clame « Place au peuple, place à la Commune !» Elle n'est pas seulement derrière les barricades pour soigner les blessés. Elle porte aussi elle-même l'uniforme des gardes nationaux, manie le fusil et prend même la tête de l'armée des femmes. Pendant le siège, elle organise des réunions durant lesquelles la révoltée parle au nom du peuple et encourage une révolte sociale, notamment dans les quartiers nord tels que Montmartre ou encore Belleville. Par ailleurs, elle lutte de manière effrontée et proclame de grands discours éloquents contre les inégalités entre le peuple, les bourgeois et le clergé. Mais elle instaure également la réorganisation de la distribution alimentaire, la mise en place de garderies gratuites et de coopératives de couturières. Mais surtout, elle s'applique à se battre fermement pour le droit des femmes. Selon elle, le mariage est synonyme d'esclavage. Elle parle au nom de toutes celles que l'on opprime. Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. Mais la répression est terrible. C'est la semaine sanglante. Louise se livre pour faire libérer sa mère prise en otage. Devant ses juges, elle refuse de demander grâce. Son courage impressionne même ses ennemis. Elle préfère déclarer. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Condamnée à la déportation et exilée en Nouvelle-Calédonie, elle quitte Rochefort le 10 août 1873 sur le bateau La Virginie. C'est ainsi que sa dimension pédagogique prend une tournure unique. Contrairement à beaucoup d'autres déportés, elle s'intéresse aux autochtones, les Kanaks. Elle apprend leur langue, recueille leurs légendes et leurs histoires et les soutient lors de leur révolte contre le pouvoir colonial en 1878. Pour elle, l'oppression est la même, qu'elle soit à Paris ou à l'autre bout du monde. Graciée en 1880, elle rentre en France héroïne populaire. Le peuple l'acclame à son arrivée à la gare Saint-Lazare. Elle embrasse l'anarchie, convaincue que le pouvoir corrompt forcément ce qu'il exerce. Elle passe le reste de sa vie entre les manifestations, les conférences et la prison. Elle écrit énormément. Ses mémoires, des idées scientifiques sur des mixtures chimiques concentrées en nutriments et en fer, des poèmes et même des romans de science-fiction. Et oui, elle se révèle passionnée d'utopie. Désir qu'elle partagera avec de grands esprits, à l'image de Charlotte Perkins Gilman, qu'elle rencontre lors d'un séjour à Londres, ou bien Albert Robida et Victor Hugo, à qui elle inspirera plusieurs œuvres. Elle restera fidèle à ses idéaux jusqu'à son dernier souffle en 1905. Finalement, Louise Michel ne cherchait ni la gloire ni l'argent, elle cherchait la justice. Sa vie et son engagement nous enseignent que l'éducation est le premier pas vers la liberté et que la conviction peut briser les chaînes les plus lourdes. Merci d'avoir écouté cet épisode. La prochaine fois, nous parlerons de notre destin hors du commun. Mais surtout, restez curieux. N'oubliez pas que, comme le dirait Louise Michel, la révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. Toutes les informations de ce podcast sont issues des mémoires de Louise Michel, publiées en 1886, mais aussi d'un roman graphique nommé Louise Michel, la Vierge Rouge, par Marie Talbot et Brian Talbot, ou encore du journal Le Temps, qui décrivent les obsèques de Louise Michel le 23 janvier 1905, mais aussi La Commune, histoire et souvenirs de 1898.